La conquête spatiale a réussi un exploit considérable. En 50 ans, l'humanité a disséminé dans l'espace des milliards de déchets d'origine terrestre. L'océan d'en haut, comme l'appelait Victor Hugo, est victime d'une pollution industrielle d'un nouveau genre, foudroyant ainsi et proliférant de manière durable, de même type, tous les irrécupérables pollutions de l'océan d'en bas, de déchets plastiques, de polystyrène, d'hydrocarbures. Comme si cela ne suffisait pas, une partie du monde déclare la guerre à l'autre, au reste du monde. Et si cela ne suffisait pas, les médias voudraient nous faire croire, et on finirait par les croire, que l'Église est en perdition, que la foi se meurt, et que la quête surnaturelle en vogue actuellement se réduit à la chasse aux Pokémon. On voudrait nous faire croire que nous sommes dans un pays de morts vivants, comme si le réchauffement climatique s'alliait au refroidissement des âmes. C'est la mort, c'est la désespérance. Chers frères et sœurs, veuillez me pardonner ce tableau un peu noir, mais je vous avoue qu'après 3 années en Argentine, de retour pour 1 mois et demi en France, je suis un peu fatigué là, de toutes ces informations permanentes, comme cette méthode Coué, comme avec les enfants quand on veut leur faire croire quelque chose, quand on veut leur faire apprendre une leçon de mathématiques. Il paraît que le monde est fichu, il paraît qu'il n'y a plus d'espérance. Même les JO, bueno, c'est mal parti. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons une pause. Heureusement, grâce à Dieu, nous avons la fête du 15 août. Heureusement, aujourd'hui, nous savons que le ciel n'est pas seulement composé de morceaux de satellites, de boulons de la NASA ou des fusées russes. Le ciel est habité par une femme extraordinaire. Ce 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie, ne nous parle pas seulement des morts vivants, mais au contraire, des vivants qui vivent parmi les morts. C'est l'inverse. C'est là toute notre espérance. Le ciel n'est pas pollué, au contraire. Le ciel est habité. Habité par cette femme excellente. Fêter le 15 août, c'est se rappeler qu'une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, a donné la vie au sauveur du monde. Et que même le dragon, rouge feu, avec ses 7 têtes, avec ses 10 cornes, n'a pu le vaincre. Elle, la jeune femme, la fille de Dieu, elle, l'épouse de Dieu, la mère de Dieu, en nous donnant Jésus, a pu écraser la tête du serpent, de l'antique serpent. Fêter le 15 août, c'est se rappeler qu'aujourd'hui, Marie, notre mère et notre reine, est bel et bien, corps et âme, dans le ciel. C'est la seule de notre race qui est présente dans le ciel entièrement, telle selon sa vocation, prévue par Dieu depuis toute éternité. Son corps n'a pas été abîmé par le péché. Elle y a été préparée selon le bon plaisir de Dieu. Elle est préparée pour être notre mère et la mère de l'Église. Elle n'a subi aucune corruption. Elle a triomphé de la mort. Elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils unique, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, 2 corps, 2 personnes, Marie et Jésus, sont tous les 2 vivants dans le ciel, dans l'unique but de nous être proches, dans l'unique but de collaborer tous les jours avec nous pour nous aider, pour nous sauver et nous réveiller face à notre vocation au bonheur. Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il est bon et qu'il nous aime. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion, ce sont des personnes. Ils sont là pour nous aider. Alors pourquoi s'en priver ? Il serait insensé. Marie est mère de l'Église. Marie est mère de notre espérance. Le corps de Marie a été, comme nous l'avons dit, protégé du péché originel pour recevoir, en gardant sa virginité, Jésus, le Fils de Dieu. Elle a porté le Créateur du monde en son sein, comme son propre enfant. Ce même corps a été présent au pied de la croix, s'unissant aux souffrances salvifiques de Jésus. Contemplant le fruit de son sein, crucifié, cloué, lui l'innocent, bafoué comme un voleur, un assassin, sur le bois de la croix. Elle a ainsi reçu à son tour en son cœur ce glaive de douleur, douleur dont elle avait été épargnée lors de l'enfantement. C'est pour cela que Marie devait posséder le même trésor que son fils, et qu'elle soit ainsi honorée par toutes les créatures, comme la mère de Dieu et la servante du projet d'amour de Dieu pour nous. Nous l'entendons bien, nous le comprenons. C'est pourquoi ce corps ne pouvait se détruire, car il est tout entier demeure de Dieu. Ce corps est pleinement humain, elle est pleinement de notre race, elle est pleinement vivante. Mais elle demeure intacte, glorieuse et dotée d'une vie parfaite. Pas d'autre solution, en fait, pour cette mère extraordinaire, vivifiée par son fils, que de partager son immortalité, son incorruptibilité. Le Christ l'a fait sortir du tombeau et l'a élevée auprès de lui, d'une manière connue de lui seul. Ainsi, elle pouvait continuer à exercer sa maternité auprès de nous. Voici ta mère, voici ton fils. Elle est notre espérance, car elle est mère de l'Église. Marie est mère du Fils de Dieu. Le corps de Marie nous a donné le corps même de Jésus, qu'est l'Église. Marie, ainsi, est la servante de l'immense bonté de Dieu, manifestée dans son amour et sa miséricorde. Et quand la barque de l'Église semble tanguer, quand elle semble prendre l'eau, quand la mort menace, quand les menaces aussi donnent la mort, seule Marie peut nous rappeler que Jésus est là, dormant dans la barque. Cette Église, c'est son Fils. Cette Église, c'est son corps. Ce corps qui ne craint ni les ténèbres, ni les tempêtes, ni le péché. Le corps de l'Église, le corps victorieux du Christ, ne craint aucun mal. Alors, nous-mêmes, que pouvons-nous craindre? Mais s'il nous arrive de désespérer, et quand nous craignons pour la survie de l'Église, quand nous commençons à chercher des solutions pour sauver la barque, comme si Jésus n'y était pas, quand nous commençons à perdre l'espérance et à chercher des voies nouvelles, c'est là que nous nous égarons. C'est là que nous oublions que l'Église n'est pas une organisation, ni une idée, ni une opinion. Elle est une personne. C'est le Christ uni à sa mère, de vivant, bel et bien présent auprès de nous. Le ciel et la terre font alliance pour nous. Marie, nous montrant son fils, comme sur la peinture du maître-autel, nous dit « N'aie pas peur, n'ayons pas peur, petit troupeau. Regardez mon fils, ayez confiance. Regardez mon fils et espérez. Placez votre regard sur le ciel, ce ciel que vous avez déjà reçu le jour de votre baptême. Même si les réalités, les souffrances de la terre sont parfois pénibles, douloureuses, et qu'elles apparemment nous donneraient à croire que Dieu n'existe pas, ou au moins qu'il nous aurait oubliés. Mais Marie est là, elle veille. Elle veille sur nous pour nous conduire au Père. Telle la nouvelle Ève, elle est là, au cœur de notre combat contre l'ennemi infernal. Elle est là, triomphante de la victoire de son Fils sur la mort. Elle est là, généreuse, généreuse collaboratrice de Jésus pour sauver l'humanité. Chers frères et sœurs, en ce jour où je célèbre mes 10 ans de sacerdoce et mes 20 ans de vie consacrée dans la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, je voudrais avec vous partager aussi mon émerveillement face à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Un frère ce matin me demandait si j'avais comme un bilan à faire. Je n'en ai point. Seulement, je peux vous dire que je comprends un peu mieux l'amour de Dieu. Je découvre peu à peu que notre vocation comme religieux et comme prêtre est d'être serviteur de cet amour, serviteur de cette présence de Dieu, serviteur de ce corps qu'est le Christ, qu'est l'Église, mais aussi de ce corps qui est le corps de l'espérance, qui est le corps de la Vierge Marie, présent auprès de nous. Le rôle du prêtre n'est pas de trouver des solutions à nos problèmes. Il ne peut sortir sa baguette magique quand la souffrance est là. Non. Le rôle du prêtre, c'est de manifester la présence de Dieu et le chemin le plus court pour y arriver, qui est la Vierge Marie. En Argentine, lors de mes missions, il m'arrive parfois de me poser la question quand je vais visiter le bidonville dans lequel je vais chaque semaine. Il m'arrive de me poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il pleut, les gens ne sortent pas. Et une petite voix me dit seulement, descends, ce n'est pas toi que les gens regardent, c'est celui que tu portes. Descends au moins de ta voiture, risque-toi à aller à la rencontre. Tu es comme un porte-Christ, quel que soit ta beauté, quelles que soient tes compétences, si tu vis dans l'état de la grâce, si tu vis des sacrements, de la prière, et spécialement de la réconciliation, alors tu portes quelqu'un, tu portes un corps, et les gens ont besoin de voir ce corps. Et chose étonnante, alors qu'il pleut, alors que les gens font la sieste, eh bien, chaque fois, ceux qui ont besoin de venir picorer, ceux qui ont besoin de venir rencontrer ce corps, sont toujours là, au bon moment. Chers frères et sœurs, je voudrais rendre grâce avec vous, et en ce jour très spécial, nous pouvons nous unir à la prière du Magnificat. Notre bon pape nous rappelle que c'est un hymne d'espérance. Notre bon pape nous rappelle que l'espérance n'est pas possible sans la Vierge Marie. Car là où il y a la croix, là où il y a un chrétien, il y a la croix. Là où il y a la croix, il y a la Vierge Marie. Là où il y a la croix, il y a notre résurrection, notre propre résurrection. Que Marie nous aide à ne pas fuir la croix, que Marie nous aide à porter la croix dans l'assurance et la foi que la résurrection est tout proche. Ne nous laissons pas voler notre espérance, parce que c'est notre force, et cette force est une grâce. C'est un don de Dieu qui nous porte en avant en regardant le ciel. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Espérance, nous aide à nous préparer au ciel, car là, nous rencontrerons notre Père qui nous attend et qui nous donnera le bonheur éternel. Amen.